Comme ça a été dit, et je le répète, bonne fête à tous les papas. Ils ont un rôle difficile, les papas. À chaque fois qu'on voit un papa, on croit qu'il doit être sévère, exigeant. Et c'est pas tout à fait comme ça. Il doit être vraiment au centre de tout. Merci à Mehdi pour la présidence. Il a tout dit. J'ai plus rien à dire. Parfois, on croit que le Saint-Esprit, nous l'avons reçu et voilà. On n'a plus rien à faire. Mais c'est tout à fait le contraire. Pour préparer un message, bien sûr, nous avons besoin du Saint-Esprit, mais nous avons besoin de travailler. Et en toute chose, c'est comme ça. Parfois, on entend la personne qui est seule, on dit « Dieu est avec toi ». C'est tellement facile de dire ça. Mais la personne qui est seule, elle sait c'est quoi être seule. Pourtant, nous avons Dieu avec nous. Heureusement. Quand quelqu'un est malade, on lui dit « c'est rien, Saint-Esprit est avec toi, ça va aller ». Oui, mais pour la personne qui est malade, combien c'est dur, combien c'est parfois des moments très difficiles. Et nous sommes cette période, un week-end plus long, la Pentecôte. Alors, je pensais comment jongler, faire la fête de papa, la Pentecôte, et de mettre de côté Jésus-Christ. On ne sait pas. Jésus-Christ est toujours au centre de tout. Alors, ce matin, je vais essayer de mettre tout ça ensemble et qu'on puisse vraiment réfléchir tous ensemble. Je ne sais pas si ça vous arrive, moi ça m'arrive, et je crois que Benoît aussi, de perdre quelque chose et nous sommes en train de chercher cette chose. Et parfois, il faut même des heures pour retrouver la chose que nous avons perdue. Parfois même des semaines, des mois et parfois même des années. Je me souviens quand mon papa était corps vivant. Il a dû rentrer à l'hôpital, mais je ne sais plus pourquoi. Il est resté quelques jours à l'hôpital. Et voilà qu'il doit sortir. Je crois que c'était à 14 heures. Et mon frère est parti aller chercher mon papa. Il arrive dans la chambre et il n'était pas là. Alors, il va voir l'infirmière, il va poser la question pour demander où est-ce qu'il est son papa. Mon papa. Et il dit, dans sa chambre. Ils ont été ensemble, ils ont été voir dans la chambre, il n'était pas là. Alors l'infirmière lui dit, c'était l'heure de partir, peut-être il est parti tout seul, peut-être que quelqu'un d'autre est venu le chercher. Mon frère dit, non, c'était moi qui devais venir le chercher. Voilà, de retour à la maison, il rentre, ma mère, qui voit que mon frère tout seul, voilà qu'elle panique et elle demande « Où est-ce qu'il est, papa ?»« Je ne sais pas. » C'était les pleurs, les cris. Et voilà qu'on nous téléphone pour rechercher mon papa. On était les sœurs, les frères, les nièces, les neveux à la recherche du papa. Plus les heures passaient, plus on paniquait. Et ce qu'on a fait avec toute la famille, on a été à l'hôpital et on a fait étage par étage. J'avais jamais fait tout l'hôpital de Tivoli, à pied comme ça, et pas moyen de le retrouver. J'étais déjà croyant, alors je prie dans mon cœur qu'on puisse le retrouver. Pas moyen de le retrouver. Au soir, on nous téléphone à ma sœur, pour nous dire qu'ils l'ont retrouvé, une personne l'a retrouvé. De retour à la maison, effectivement, il avait pris un médicament et ce médicament n'a pas fait l'effet, ce qu'il devait faire comme effet, mais il avait perdu un petit peu connaissance. Et il est parti en bus, il a fait tout le tour de la Louvière plusieurs fois. À un moment donné, il est sorti du bus et voilà, il se promenait dans la Louvière. Et de retour à la maison, il y avait les sœurs, les frères, des oncles qui étaient déjà là, des nièces, mes neveux. Qu'est-ce qu'on a fait ? Bon, on a fait la fête. On a fait la fête d'avoir retrouvé le papa. Et nous voyons dans la parole de Dieu, dans l'évangile, où on nous parle de ce qui est perdu et retrouvé. Ce qui est perdu et retrouvé. Je vais lire avec vous, c'est dans l'évangile de Luc, au chapitre 15, nous lirons les 10 premiers versets. Tous les publicains et les gens de mauvaise vie s'approchèrent de Jésus pour l'entendre. Et les pharisiens et les scribes murmuraient, disant, « Cet homme accueille des gens de mauvaise vie et mange avec eux. » Mais il leur dit cette parabole, « Quel est l'homme d'entre vous s'il a 100 brebis et qu'il n'en perde une et ne laisse les 99 autres dans le désert pour aller après celle qui est perdue ?» jusqu'à ce qu'il la retrouve. Lorsqu'il l'a retrouvée, il la met avec joie sur ses épaules. Et de retour à la maison, il appelle ses amis, ses voisins, et leur dit, « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé ma brebis qui était perdue. » De même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Et voilà que Jésus enchaîne avec une deuxième parabole. Ou quelle femme, si elle a 10 drachmes et qu'elle en perde une, n'allume une lampe, ne balaye la maison et ne cherche avec soin jusqu'à la retrouve. Lorsqu'elle a retrouvé, elle appelle ses amis et ses voisines et dit « Réjouissez-vous avec moi !» car j'ai retrouvé la drachme que j'ai perdue. De même, je vous le dis, il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se repent. Et Jésus enchaîne avec une troisième parabole, c'est avec le fils prodigue, je crois qu'on la connaît, mais je vais toucher quand même un mot sur cette parabole. Mais il me semble que, avant d'entamer ce message, juste une petite introduction pour voir un petit peu ce qui se passe exactement. Nous avons dans ce message deux catégories de personnes. Nous avons d'un côté des publicains qui sont des collecteurs d'impôts. Ce sont des personnes qu'on n'aime pas, ces gens-là. Je sais pas pourquoi, mais on n'aime pas parce qu'ils prennent ce sont ceux qui prélèvent les droits sur tous les marchandises et tout autre chose. Et ils travaillaient pour les Romains. Et ces personnes, effectivement, profitaient de leur travail. Et ils travaillent, en quelque sorte, ça dépendait la tête de la personne. Et nous avons aussi des gens de mauvaise vie. L'évangile de Luc parle des pécheurs. Ce sont des personnes qui vivaient vraiment dans le péché, dans l'impureté, dans l'inconduite, dans la corruption, dans l'alcool, la prostitution, etc. Voilà d'un côté... Il y a ces collecteurs d'impôts et ces gens de mauvaise vie. Et vous avez de l'autre côté, ce sont les pharisiens. Ce sont des personnes religieuses de cette époque-là qu'ils aimaient, et ils aimaient prier devant tout le monde, avec des longues prières. Ils aimaient faire le sabbat. Ils avaient une apparence, quand on les voyait, waouh, que des hommes justes, que des chrétiens, on pourrait dire, aujourd'hui. Il y avait aussi les scribes. Ce sont des hommes chargés d'étudier et d'expliquer les écritures de l'Ancien Testament, les cinq premiers livres. Voilà, d'un côté, les publicains, les gens de mauvaise vie, de l'autre côté, des pharisiens et des scribes. Et là, maintenant, on va rentrer dans le sujet du message. Nous voyons que ces collecteurs d'impôts et les gens de mauvaise vie, ils s'approchent de Jésus pour écouter. Et là, les pharisiens et les scribes, ils ont commencé à parler entre eux, mais bien sûr pour juger Jésus de ce qu'il fait. Parce que Jésus accueille ces personnes et mange avec ces personnes. Et Jésus qui est Dieu, c'est ce qui se passe là. Il est en train d'entendre ce qu'ils disent. C'est pourquoi Jésus, maintenant, va raconter trois paraboles. On a lu deux paraboles, mais la troisième, c'est avec le fils prodigue, celui qui dépense tout. Mais aussi son frère et son papa. Jésus va raconter ces trois paraboles pour expliquer pourquoi Jésus est avec eux. Il va parler de la brebis perdue et retrouvée. La pièce perdue et retrouvée. Le fils perdu et retrouvé. Et à chaque fois qu'on retrouve, il y a de la joie. Il y a de la réjouissance. On peut voir ça dans le verset 5, 7, 9, 10, 23, 32. Il y a de la joie. Il y a de la joie quand on a retrouvé ce qui est perdu. Ces collecteurs d'impôts, ces gens de mauvaise vie, viennent à Jésus pour écouter. En quelque sorte, ils viennent dans le sens de se repentir. Ils viennent par une repentance. Pourquoi je dis une repentance? Mais tout simplement, il est dit, c'est même les pharisiens qui le disent, Jésus accueille ces gens et mange avec eux. Qui veut dire que Jésus, c'est à eux, ces personnes. C'est à Jésus. Il les accueille. Ça lui appartient. Ça appartient à Jésus. Ce sont ces personnes qui sont perdues. Et c'est à Jésus, ces personnes. Jésus dit l'homme. Il ne parle pas du berger, mais il parle de l'homme. Il est parti chercher la brebis qui était perdue. Et laisse les 99 autres dans le désert. Quel risque qu'il fait cet homme. Il laisse les 99 pour chercher celle qui est perdue. Il faut prendre un risque. Je ne suis pas berger, peut-être Benoît, c'est un peu plus sur ça. Est-ce qu'on peut laisser les 99 brebis et partir chercher celle qui est perdue? C'est un risque. Mais Jésus ne prend pas de risque. Il sait ce qu'il fait. Parce qu'il sait que ces 99 brebis, ce sont les pharisiens et les scribes. Qui se disent, moi, je suis juste. Moi, je prie. Et je prie 5 fois par jour. Moi, je jeûne. Je jeûne tout le temps. Moi, je donne. Moi, je fais le sabbat. Moi, moi et moi. Est-ce que parfois, je suis pas comme ces personnes? Moi, je vais tous les dimanches à l'église. Moi, je vais tous les mardis à la réunion de prière et l'étude. Moi, je donne, moi, je fais, moi, j'écoute, moi, j'obéis. Et Jésus est en train de leur montrer que ces 99 personnes ne connaissent pas Dieu. Ils sont dehors de Dieu. Ils vivent une vie de religieux. Ils se croient justes et ils croient qu'ils savent tout. Il n'y a pas si longtemps, j'étais avec une personne, on était assis l'un à côté de l'autre, d'une personne de 91 ans. Et on a commencé à parler de Dieu. Et elle m'a dit, encore aujourd'hui, j'apprends de Dieu. Quelle sagesse. À 91 ans, on peut dire, ben, j'ai tout compris de Dieu. Non. Et puis, elle me dit qu'on pêche encore. À 91 ans, on pêche encore? Oui, on pêche encore. Et ces pharisiens n'avaient jamais, jamais passé par la repentance. Ils vivaient une religion. J'aime un frère, il disait, la religion, c'est faire des choses. Et pourtant, Jésus a tout fait. La religion, on essaye de devenir blanc, et c'est Jésus qui nous blanchit. Voilà la grande différence. Jésus mange avec eux. Il se réjouit, Jésus, quand il y a une vraie repentance. C'est la joie de retrouver ce qui est perdu. Voilà qui mange avec eux. Alors je me suis posé la question, comment cette brebis s'est perdue? Logiquement, elle devait rester avec les 99 autres. Non? Comment elle s'est égarée? Alors, j'ai regardé dans Matthieu, il y a tout à fait la même histoire. Matthieu chapitre 18 au verset 12. Mais juste avant, Jésus dit, et ce qui est important, ce qu'il dit, gardez-vous de mépriser un seul de ces petits, car le Fils de l'homme est venu sauver ce qui était perdu. Alors, comment elle s'est perdue, cette brebis? Mais tout simplement, ces pharisiens et ces scribes ne voulaient pas ces personnes-là. Ils sont trop petits. Ils ne vaut rien, ces personnes-là. On n'a pas besoin d'eux. On les met de côté, ces personnes. On n'en veut pas. C'est pourquoi elle s'est garée, cette brebis. Ce qui m'a vraiment beaucoup touché dans ce passage, à deux reprises, Jésus dit, l'homme cherche jusqu'à ce qu'il la retrouve. La femme balaye la maison et cherche avec soin jusqu'à ce qu'elle la retrouve. Je trouvais ça beau. Comment Jésus fait pour rechercher ce qui est perdu? Mais tout simplement, il a été jusqu'au bout, comme on l'a dit, sur la croix. Il est mort pour ceux qui sont perdus. Il a été jusqu'au bout, pour nos fautes, pour nos péchés et pour tout le reste. Jésus est venu jusqu'à la croix. Et Jésus montre par cette parabole qu'il est le berger de ceux qui sont perdus. Dans Jean, il est dit, « Moi, je connais mes brebis. » Jésus savait ces personnes qui sont. C'est les brebis de Jésus. Voilà pour la première parabole. La seconde, la pièce perdue. Une pièce, à l'époque, représente une journée de travail. C'est pas beaucoup. Mais à cette époque-là, c'était beaucoup, une pièce. Il fallait travailler des heures et des heures, dans la chaleur, etc. Et quand on avait cette pièce, on était content. Et il est dit, ce que j'ai trouvé, une jeune fille, juive, elle essayait de avoir au moins 10 pièces pour faire un collier avec. C'était l'équivalent d'une alliance de mariage. Là, on comprend un peu plus. De perdre une pièce, oh, il fallait pas perdre une pièce. Combien c'est important l'alliance de mariage. Je veux cette pièce-là. Et qu'est-ce qu'elle fait, la femme? Elle balaye pour retrouver cette pièce. Mais on doit revenir à l'époque. La plupart des maisons n'avaient pas de fenêtres. D'un côté, tant mieux. Je viens de changer mes châssis, je sais combien ça coûte. Mais il n'avait pas de châssis, de fenêtres. Et aussi, le sol, c'était de la terre battue. Ainsi, on ne devait pas carreler ou parquer ou quoi que ce soit. Mais ça rendait difficile de retrouver la pièce qui était perdue, la pièce d'argent. Et les collecteurs d'impôts, les gens de mauvaise vie, c'était la pièce qui était perdue. Ils vivaient, ces personnes, vraiment dans les ténèbres. Il n'y avait pas de lumière pour eux. Il n'y avait rien du tout. Jour après jour, ils étaient dans le noir. Et quand ils marchaient tout le temps sur ce sol battu de péché, jour après jour. Ce sont vraiment des hommes qui étaient perdus. Et pour retrouver cette pièce, il a fallu que Dieu intervienne avec la puissance du Saint-Esprit. La femme représente l'activité. Le Saint-Esprit apporte la lumière divine, la lumière de Dieu. Voilà l'action du Saint-Esprit. Nous avons vu Jésus-Christ ce qu'il fait, et maintenant le Saint-Esprit ce qu'il fait. Il vient éclairer leur vie en leur montrant, oui, tu as fait un mauvais choix. Tu as fait une erreur. Mais aussi l'Esprit vient leur montrer qu'ils ont une valeur cette pièce. Et Jésus est en train de montrer aussi que cette pièce est l'alliance qu'il a envie de faire avec eux. Je suis prêt à faire cette alliance avec vous. Alors les 9 pièces qui sont les pharisiens et les scribes, Il faut pas être professeur de maths que 9 pièces vaut plus qu'une pièce. Vous êtes d'accord avec moi? 9 pièces, c'est important, c'est beaucoup par rapport à une pièce. Et c'est vrai. C'est vrai dans le sens de nos yeux. Les yeux humains, il y a plus de valeur. C'est plus important quand nous voyons ces gens. Waouh, qui sont beaux, ce qu'ils font, remarquable. Mais Dieu regarde dans le cœur, et regarde dans l'homme, et que ces hommes étaient en train de acheter le salut par leur propre effort, par leur mérite, sans passer par une repentance. On ne s'est pas passé, on ne s'est pas allé vers le Père sans repentance. C'est pourquoi Jésus est avec eux. Il se réjouit de voir une vraie repentance. C'est la fête. Je me souviens qu'on a retrouvé mon papa. Nous sommes pas comme les Juifs. Les Juifs savent faire la fête. Mais les Italiens aussi, on sait faire la fête. Oh, ma mère qui a pris du salami, du fromage, tout ce qu'il avait dans le frigo. Mais on a fait la fête. Parce qu'on a retrouvé le papa. Et Jésus savait faire la fête. Il a retrouvé la personne qui était perdue. Et Jésus continue cette troisième parabole. Je vais toucher un mot, on la connaît, mais c'est bon de repenser à ces paroles. Voilà qu'il y a deux fils. Un père a deux fils. Et le cadet va demander l'héritage à son père. Ce qu'on ne fait pas. On ne peut pas faire ça. Tant qu'il est vivant, on ne peut pas le faire. Il le fait. Et voilà qu'il a l'héritage du papa. Mais il voulait du cash. Il veut de l'argent. Et il va vendre tout ce qu'il a pour avoir beaucoup d'argent. Et dans le verset 13, il est dit qu'il est parti dans un pays éloigné. Est-ce qu'il est parti dans le nord? Non, je crois qu'ils sont déjà dans le nord. Est-ce qu'ils sont partis dans le sud? Est-ce qu'il est parti dans le sud? Où est-ce qu'il est parti, un pays éloigné? Mais tout simplement, chez les païens. Il est parti chez les païens. Vivre avec qui? Avec les cochons. Et qu'est-ce qu'il va faire dans ce pays éloigné? Il est dit qu'il va vivre dans la débauche. Ça vous fait penser qui? Ces gens de mauvaise vie. Mais aussi les collecteurs d'impôts. Il avait du cash, il avait de l'argent. Les collecteurs d'impôts, ils avaient de l'argent parce qu'ils ont beaucoup profité. Et ces gens de mauvaise vie vivaient vraiment dans la débauche. Voilà. Qu'est-ce qu'il va faire ce garçon? Il va vivre dans la débauche. Et le terme débauche est tellement large, mais tellement important qu'aujourd'hui, on ne veut même plus entendre ce mot de débauche. C'est vraiment l'impureté, l'inconduite. C'est vraiment la corruption, c'est vraiment l'alcool. Et que l'apôtre Paul en parle, ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Vous voyez, ce terme est tellement large. Il parle aussi de la fornication. C'est avoir des relations sexuelles hors de mariage. Voilà ce qu'il va faire. Cet homme, ce garçon. Jésus est en train de parler avec qui? Avec des pharisiens, des scribes, et aussi avec tous ces gens-là. Qu'est-ce qu'ils devaient faire, ces pharisiens? Mettre ses mains sur les cheveux et dire, waouh, qu'est-ce qu'ils vont faire? Qu'est-ce qu'il va faire? C'est pas que Jésus est en train de tolérer ça, mais il est en train de montrer ce qu'il va faire, Jésus. Voilà qu'il s'en va commettre tout ça. C'est horrible. C'est horrible. Mes frères et sœurs, le voilà dans le trou. Dans le trou. Ça vous fait penser à quoi? Mais cette maison où il n'y avait pas de fenêtre. Le voilà qu'il est dans les ténèbres. Il n'y a plus de lumière pour lui. Il ne sait plus s'en sortir. C'est fini pour lui. En quelque sorte. Il était en train de marcher jour après jour dans cette terre battue de péché. Il est perdu. Mais ce qui est beau dans cette parabole, c'est que au verset 17, il dit qu'il est rentré en lui-même. Chacun de nous, nous avons une conscience. Et qu'est-ce qui fait le Saint-Esprit dans cette conscience? Il vient nous dire ce qui se passe dans notre vie. Oh mon gars, t'es en train de faire une erreur. Mais il y a une solution dans cette erreur. Et lui-même remarque qu'il a fait une erreur et il dit au verset 18, « Je me lèverai et j'irai vers mon Père et je lui dirai, j'ai péché contre le ciel et contre toi. C'est beau ce qu'il dit. J'ai péché contre le ciel. Quand nous commettons un péché, la première personne qui est offensée, c'est toujours Dieu. C'est pas simplement la personne. La première personne, c'est Dieu. Et puis c'est l'autre qui est l'autre personne. Et voilà qu'il se lève. Et quand il se lève, qu'est-ce qu'il fait? Il est en train de marcher sur un chemin de repentance. Ça vous fait penser qui? Mais ces collecteurs d'impôts et ces gens de mauvaise vie qui vont vers Jésus pour écouter ce chemin de repentance. C'est ce qu'il est en train de faire, ce fils. Ce que je trouve vraiment beau, c'est que le Père le voit de loin et il fut ému de compassion. Mais comment le Père l'a vu de loin? J'aime bien me poser des questions. Comment il l'a vu de loin? Mais tout simplement, le Père, jour après jour, peut-être heure après heure, il regardait si son fils allait revenir. Il regardait. Je me souviens, quand on n'était pas chrétiens, mon frère et moi, mon frère rentrait tard, très tard. Même parfois, je partais travailler, il rentrait seulement. Et je me souviens que ma maman n'allait pas se coucher tant que mon frère ne rentrait pas. Elle attendait le retour de Salvatore, jour après jour. Le Père, c'est ça ce qu'il fait. Il attend qu'il revienne. Son désir, c'est qu'il revienne. Mes frères et sœurs, qu'est-ce qu'il fait le Père? Ben, il court. Il court. Il se jette à son cou et il commence à l'embrasser. Je me souviens aussi, à l'époque, on avait un coffee bar où on invitait des personnes pour jouer au kicker, au billard, au ping-pong. Mais après, il y avait un petit court moment où on parlait de Dieu. Et cette fois-là, c'était mon frère qui parlait et il avait pris cette histoire. Et elle est toujours en moi ce qu'il a dit. Ce père court. À l'époque, il n'y avait pas de training ou de pantalon pour courir. On avait simplement une jupe, allez, une robe, une soutane. Et pour courir, qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait remonter. Ça se fait pas, un père qui fait ça. Il le fait. Le père le fait pour aller vers le fils. Et il court pour l'embrasser. Ça montre vraiment que tout est déjà réglé. Pourtant, à l'époque, quand un fils commettait quelque chose de mal à son père, c'est un des commandements, il faut respecter son père et sa mère. Qu'est-ce qu'on faisait à l'époque? Eh ben, on se rejoignait à la porte de la ville et on réglait les affaires, les problèmes. Et s'il avait pris de l'argent, comme il l'avait fait, eh ben, on règle les affaires, tu vas travailler pour réparer. C'était du donnant-donnant. Ça nous fait penser à quoi, donnant-donnant? Ben, la religion, on donne, on fait pour régler les problèmes. Ici, non. C'est montrer vraiment la relation du Père. Je viens vers toi. Parce qu'il y a une repentance vraie et sincère. Et qu'est-ce qui se passe? Mais c'est la fête! C'est la fête! Le Père l'a retrouvé! Et c'est la fête! Allez! Les Juifs savent faire la fête. Il y a les danses, la musique. On fait un bon repas. C'est la fête. Mais qu'est-ce qui se passe? Mais c'est que le fils aîné revient des champs, il entend cette fête, il va pas voir le père, il va voir un serviteur et il dit « Qu'est-ce qui se passe chez mon père ?»« Ben, ton frère est rentré et ton père fait la fête. » Oh, comment il était fâché. Comment il était jaloux. Ça vous fait penser à qui ? Ben, c'est scribes, c'est pharisiens. Quand Jésus mange avec eux, waouh, on peut pas faire ça. Et le père l'invite pour rentrer. Rentre, on va faire la fête. Le fils ne répond pas. Il est en train de dire, moi, je t'ai toujours obéi. Voilà la religion. Moi, et quand on parle avec des personnes, mais moi, j'ai jamais commis de péché. Moi, je suis gentil. Moi, j'ai jamais commis d'adultère. Moi, j'ai jamais fait ça. C'est ça qu'il est en train de se dire. Mais moi, je t'ai toujours obéi. J'ai toujours fait. J'ai fait. Ce qui est triste ici, c'est que le fils ne répond pas au père. Rentre. Et on craint, c'est les commentateurs, ceux qui ont étudié ce récit qui le dit, ça vient pas de moi. On craint que cette personne a fait comme les scribes et les pharisiens. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Quelques mois plus tard, ils ont crié, crucifie-le. J'espère qu'il n'a pas fait ça. Le fils cadet et le fils aîné ne connaissaient pas le père. Ils ne savaient pas que le père est bon, qu'il est rempli de compassion, qu'il est rempli d'amour, qu'il est rempli de grâce. Mais par cette repentance, le fils cadet est rentré chez le père. Mais le fils aîné est dehors du père. Il est à côté du père. La conclusion, c'est de savoir que le père est rempli de compassion, mes frères et sœurs. Il est bon et plein d'amour. Qu'il a envoyé Jésus-Christ pour mourir à cause de mes péchés, à cause de nos péchés. Et qu'il a envoyé le Saint-Esprit pour nous convaincre que nous avons commis le péché, que nous avons fait fausse route. Et le Père attend et attend qu'on revienne à lui pour nous embrasser dans notre cou. Voilà le Père, ce qu'il fait. J'aime cette histoire de savoir que le Père est en train de mettre ses mains alentour de nous et nous embrasser. Voilà dans cette histoire le Fils qu'il fait, le Saint-Esprit et le Père. On voit vraiment la Trinité qui travaille jour après jour pour nous. Amen.